Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Faire réfléchir les élèves de collège sur les migrations d'aujourd'hui au regard de celles d'hier, c'est l'idée ambitieuse du projet pédagogique Enfants réfugiés hier et aujourd'hui. Ce projet associe des établissements scolaires, des associations et des lieux de mémoire dans le but de sensibiliser les jeunes aux problématiques du déracinement et de l'intégration. Pour en parler, nous accueillons Bernard Delpal, historien, membre de l'association Dieulfitoise Patrimoine Mémoire Histoire, et Catherine Coulot, enseignante de français langue étrangère dans une classe dédiée à l'accueil au Collège Europa de Montélimar. Catherine et Bernard, soyez les bienvenus, bonjour.
Bonjour Pauline.
Bonjour Pauline.
Le projet Enfants réfugiés hier et aujourd'hui achève sa troisième année d'existence. La journée de restitution du travail des élèves a eu lieu en mai dernier. Bernard Delpal, quel est le but et les retentissements d'une telle initiative ?
Alors, ce projet a été monté au printemps 2016 à partir de la maison d'Isieux, qui déjà avait un potentiel assez sérieux en termes de personnel, d'expérience, d'accueil d'élèves. Et l'idée était de faire bénéficier l'ensemble des établissements de la région de l'expérience de la maison d'Isieux en termes d'accueil, de maniement des archives, de recueil des témoignages. Mais la nouveauté, c'était qu'on ne se contentait pas de travailler sur la Deuxième Guerre mondiale. On se posait la question, et aujourd'hui, que puis-je faire pour eux ? Qui sont-ils ? Et le projet comporte donc deux volets. Enfants réfugiés d'hier, c'est-à-dire que dans l'initiation des élèves, il y a une partie connaissance de la Deuxième Guerre mondiale, du XXe siècle, mais le deuxième volet consiste à rencontrer des migrants, à les accueillir et à prendre part à leur insertion dans le pays.
La maison d'Isieux est un des lieux de mémoire associés au projet. Est-ce que pour les néophytes qui sont rares, on peut rappeler ce qui s'est passé à la maison d'Isieux ?
Alors, la maison d'Isieux est depuis 1994 un mémorial français, mais presque, j'allais dire maintenant, européen, tellement il s'est développé. Le 6 avril 1944, il s'est déroulé à la maison d'Isieux un drame épouvantable. À l'initiative de Klaus Barbie, le SIPO SD allemand de Lyon a raflé la colonie des enfants qui étaient réfugiés à Maison d'Isieux. Et sur une cinquantaine d'enfants, 47 ont été déportés et un seul est revenu. Un seul a été rescapé. C'est donc un drame presque exemplaire. On s'en prend à l'enfance. C'est un acte délibéré, alors que la maison existait depuis longtemps. On y a vu la manifestation la plus violente de la volonté des nazis d'exterminer tout un peuple en s'en prenant à la petite enfance.
Comment l'association, on parlait de l'association Patrimoine Mémoire Histoire de Dieulfi, s'est-elle associée à ce projet ?
Là, vous nous entraînez sur une pente un peu glissante, Pauline. En fait, si on compare les trois structures chargées pour les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes de gérer ce projet à chaque session annuelle, il y a deux géants et un nain. Les deux géants, ce sont les maisons d'Isieux, où il y a plus d'une dizaine de salariés permanents avec des structures mésographiques importantes. C'est le lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon. Et d'autre part, c'est la minuscule association Patrimoine Mémoire Histoire de Dieulfi.
Les budgets ne sont pas comparables.
C'est très gentil. Mais les budgets, les moyens ne sont pas comparables. En revanche, on a été heureux d'accepter la proposition de fonctionner à trois parce que c'était une façon de reconnaître le rôle historique de la ville de Dieulfi, qui ne possède pas de musée, mais qui possède des lieux, des traditions, des mémoires très vivantes et qui intéressent les élèves.
Catherine Coulot, le Collège Europa a participé pour la première fois cette année avec deux classes, dont une classe spécialisée. Vous êtes en charge de cette classe spécialisée qui porte un nom...
Elle s'appelle UPE2A, Unité Pédagogique pour les élèves allophones arrivants. Mais on l'appelle plus simplement la classe FLE, c'est-à-dire la classe français langue étrangère.
Alors, qu'est-ce qui leur a été proposé concrètement ? Comment vous avez travaillé ?
Alors, pour l'instant, on y a travaillé en amont avec des collègues, trois collègues. Madame Agnès Missiac en français, Nathalie Javel en histoire et André Bini en éducation musicale. On s'est réunis en prévision de la rentrée l'année prochaine. Mais je n'en ai pas parlé aux élèves de cette année, puisque beaucoup vont quitter le collège et ne seront pas encore impliqués.
Et qu'est-ce que vous allez faire alors concrètement?
Alors, mes deux collègues, Agnès et Nathalie, vont travailler également avec le collègue de musique, avec une classe de troisième, puisque le programme d'histoire correspond bien à ce projet et ils sont très heureux de pouvoir faire cette démarche qui va ancrer le programme d'histoire dans quelque chose de concret. Et puis pour ma classe, je vais travailler bien sûr avec cette classe de troisième. J'ai des élèves syriens par exemple cette année qui vont intégrer la classe de troisième qui mènera le projet. Et puis également, je serai en relation avec une classe de quatrième du collège de Bussy à Romans. Voilà, ce collège a choisi une classe de quatrième puisque la migration est au programme en géographie. Pour ma classe, on commencera... la priorité, c'est l'accueil des élèves avant tout programme.
D'accord.
Donc j'attends de pouvoir les accueillir correctement là où ils en sont. Et ensuite, on commencera en novembre une correspondance avec la classe de Debussy.
D'accord, une correspondance sur cette thématique de l'intégration directement.
Se connaître, faire connaissance et ensuite on se rencontrera. Donc ça, ce sera en novembre-décembre. Et on pense venir faire une première rencontre à Beauvallon en février à peu près. Voilà.
Y a-t-il des difficultés à parler de faits historiques, justement, avec des enfants qui parfois sont arrivés très récemment ou qui, jusqu'il y a peu, n'imaginaient peut-être pas d'avenir en France et on vient leur parler d'histoire? Est-ce que vous pensez que ça peut... qu'ils vont adhérer facilement? En quoi ça peut les motiver?
Je pense que les élèves qui seront là depuis 2 ans auront plus de facilité que ceux qui arrivent juste. Je pense qu'il faut être très vigilant à respecter leur rythme. Voilà, et déjà leur proposer une rencontre avec des élèves français, c'est favoriser leur intégration par une amitié d'adolescent. C'est important.
Oui, ça passe par des choses simples finalement.
Voilà, et il faut attendre qu'ils soient prêts à parler de leur histoire. Moi, c'est une de mes préoccupations. Et d'ailleurs, j'en ai parlé hier au téléphone avec la petite collègue de Bussy. Je lui ai dit, mon souci, c'est vraiment qu'on respecte leur temps. C'est quand ils veulent qu'ils parleront de leur histoire, s'ils veulent. Voilà.
Bernard Delpal, Catherine, en quoi le fait de mener un tel projet pédagogique, de sensibilisation, mais aussi de reconstruction pour certains des élèves, reconstruction identitaire, en quoi ça permet aux élèves de se reconstruire? Qu'est-ce qui se passe?
Le fait de travailler sur des dossiers historiques leur fait comprendre que l'enfance, par définition, est fragile dans le monde contemporain, puisque le XXe siècle, c'est tout près de nous. Et je repense à des scènes très précises que j'ai vues à la maison d'Isieux, lorsque un enfant syrien ou sénégalais ouvre le dossier d'archives qui lui a été préparé pour rentrer dans la problématique de la déportation et de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'il frappe tout de suite, c'est la photo d'enfant. Il voit des photos d'enfants. C'est son monde à lui. Et quand il découvre que ses enfants ont été soumis à des traitements inhumains, dégradants, il fait le rapprochement avec ce qu'il a subi. Et il y a au moins un point commun qui leur apparaît tout de suite, c'est qu'ils ont été victimes de violences énormes qui les ont dépassés. Dans les récits que font ces enfants, spontanément, je rejoins tout à fait le point de vue de Catherine, un des premiers points qu'ils abordent, la première chose qu'ils veulent transmettre, c'est qu'ils ne sont pas partis volontairement. Ils sont partis parce qu'ils ont été contraints. On ne part jamais d'une manière délibérée, ni quand on est dans les fameux Kindertransport de 1939, un enfant juif de Augsbourg, il quitte pas sa ville, son collège, sa famille.
Par plaisir. Ou par envie.
Bien sûr que non. C'est la même chose pour un petit Sénégalais ou quelqu'un du Darfour. On part parce qu'on est contraint. On arrive donc complètement démuni. Et ça, ils font très bien le lien spontanément. Par exemple, à la dernière restitution, au mois de mai dernier à Maison d'Izieux, tous les adultes qui étaient présents, il y avait du monde, hein, Catherine, ont été frappés par leur aptitude, par exemple, à traduire pour des élèves africains, par la fabrication de masques, le désespoir, l'angoisse des enfants. Et ça, je pense qu'un enfant a une force considérable lorsqu'il manipule une matière et quand il veut rendre ce qu'ont subi les enfants du passé et ce que lui-même a subi avant d'arriver sur le sol métropolitain.
Une espèce de transfert, en fait, quand même, qui s'opère.
Oui, et puis c'est vrai que l'histoire, de temps en temps, est utile, tout de même, ça aide à comprendre des situations.
Hein. Quelle forme peuvent prendre les travaux des élèves ? Bernard, vous avez suivi depuis 3 ans. Chaque année, il y a une thématique. Pour qu'on s'imagine bien, après, on pourra aller voir sur le site, car il y a un site qui regroupe le travail des élèves, mais quel type de forme ça peut prendre ? Vous parlez de masques, qu'est-ce qu'il y a eu comme genre de travail ?
Oui, alors chaque année, les 3 structures qui font fonctionner le projet proposent, c'est une proposition, d'utiliser un moyen de transmettre. Alors la première année, le moyen, c'était des expositions très traditionnelles avec des posters. Bon, alors ça avait été à moitié satisfaisant parce que fabriquer un poster nécessite l'intervention d'un professionnel à un certain moment. Et alors, après, les années suivantes, c'est-à-dire les sessions 2 et les sessions 3, nous avons préféré un moyen qui permettait aux élèves de prendre le projet au point A et de l'amener jusqu'à son terme. L'année dernière, par exemple, le véhicule, le moyen proposé, c'était la bande dessinée. Et là, ils ont excellé. Mais certains ont préféré, par exemple, fabriquer des boîtes magiques dans lesquelles ils plaçaient tous les outils, tous les objets liés au voyage, souvent dans des conditions épouvantables. Alors, ça pouvait être un petit bateau, ça pouvait être un conteneur en acier dans lequel on se cache. Bref, ce qui était bien, c'est que en partant de leurs témoignages, de récits, de lectures, ils sont arrivés à produire des objets qui racontaient leur année scolaire. Ça, c'est le but de la restitution. Et pour l'année qui vient, nous nous sommes mis d'accord pour choisir l'oralité, hein, c'est-à-dire la parole, voire peut-être tout ce qui peut aller avec la parole, la chanson. Par exemple, l'un des 4 établissements, hein, qui est un lycée professionnel de la banlieue de Puy-en-Velay, aimerait tenter le slam. Mmh. Alors le slam, c'est un outil qui est familier.
C'est un moyen d'expression, bien sûr.
Voilà. Mmh. Il suffit à Lyon, par exemple, de passer le soir devant l'opéra, bien qu'il soit fermé à cette heure-là, vers 17h, 17h30, et l'on voit au moins chaque jour une dizaine de groupes de slam excellents qui rivalisent, qui sont dans des compétitions amicales, et le public spontanément se forme en spectateur sur cette place de la Comédie. C'est donc un moyen de communication des jeunes. Et ça, ils excellent.
Une énorme diversité, en fait.
Ah oui, oui.
De types de production.
Oui, parce que il faut penser que ces fameuses classes UPE 2A sont conçues de telle manière que un certain nombre d'élèves, un petit noyau qui a l'expérience du français et de l'enseignement, oui, volontaire, accueillent des élèves qui sont complètement démunis à la rentrée scolaire.
Et il y en a qui restent et il y en a qui partent, c'est ça ? Il y en a vont vers les classes plus traditionnelles quand ils ont atteint un certain niveau ?
En fait, ça dépend beaucoup de leur origine. S'ils parlent une langue très éloignée du français, ça va prendre plus de temps. Par exemple, j'ai des élèves du Pakistan, d'Afghanistan, du Bangladesh, ou j'ai même eu un Chinois, cette année. Et donc, pour ces élèves, l'apprentissage est plus long. Mmh. D'autres élèves sont francophones mais n'ont jamais été scolarisés. Donc, c'est une autre problématique. Il faut leur apprendre à lire et à écrire. Voilà. Donc, en fait, moi, j'aime beaucoup cette structure parce qu'elle me permet d'accueillir les élèves chacun avec ses acquis et ses besoins. Je change les emplois du temps à chaque vacances. Pour qu'ils puissent aller plus ou moins dans leur classe. Excusez-moi, j'ai oublié de dire qu'ils sont inscrits dans une classe ordinaire, selon leur âge. Ils sont en 6e, 5e, 4e ou 3e, selon leur âge, et ils ont 12 à 14 heures de FLE, selon leurs besoins. Et je fais quand même deux groupes, parce que j'essaye d'avoir un groupe renforcé pour ceux qui ont simplement besoin d'un soutien linguistique la deuxième année, par exemple. Voilà.
Il y a combien d'élèves en moyenne dans ces classes?
En début d'année, ça commence petit, ça peut être 12, et maximum, ça va à 18. Mais au final, sur toute l'année, là, j'ai accueilli 30 élèves. Il y a quelques heures que je donne au collège Alain Borne aussi, où là, le profil des élèves est différent, puisque ce sont beaucoup des Roms, et souvent qui sont passés par l'Espagne. Mmh. Donc, ce sont des enfants qui ont souvent un rapport compliqué à la scolarisation, et ce n'est pas du tout le même profil que les migrants qui arrivent d'Afrique ou d'Asie ou du Moyen-Orient.
Quelles sont les différences? Voilà. Qu'est-ce qui...
Le rapport difficile à la scolarité, un petit peu comme les enfants du voyage en France. Voilà.
Bernard Delpalche, chaque année, les élèves présentent donc la restitution du travail, des travaux qu'ils ont effectués. En tant qu'historien, comment vous percevez-vous la prise en charge de ce devoir de mémoire? Il y a quasiment une idée de parrainage par une action historique, des actions historiques antérieures. Est-ce que c'est facile pour eux de s'en emparer?
Oui, alors effectivement, en vous écoutant, je repensais à ce qui s'est passé l'année dernière à Dieulfi, je veux dire au mois de mai 2017. La totalité des élèves de 3e du collège Chalamel étaient engagés dans le projet. Il y avait donc près d'une centaine d'élèves, plus les trois autres établissements, ça faisait beaucoup de monde. Et on a assisté à des scènes absolument extraordinaires, en particulier les élèves de Vénitieux, d'Aimé Césaire, avaient conçu leur intervention comme une série de clips, vidéos et sonores, qui étaient des détournements de la vie scolaire ordinaire. Mmh. Et en particulier, nous avons tous été frappés, il y avait beaucoup de monde, là elle était pleine à craquer, il y avait des parents, des amis, mais un clip nous avait tous frappés, c'était une inversion des rôles, c'est-à-dire qu'une jeune fille irakienne qui maîtrisait bien le français, elle avait fait des progrès extraordinaires en très peu de temps, était devenue le professeur, et Madame Tamé, Géraldine, était devenue l'élève. Mmh. Et la jeune Irakienne répétait « Mais enfin, tu ne comprends rien à ce que je dis, fais un effort quand même, c'est pas si difficile. » Bref, cette inversion des rôles a saisi le monde adulte, parce qu'on a compris tout d'un coup que les adultes, eux, ne mesuraient pas la distance qu'il était à parcourir, et que l'enfant, lui, était beaucoup plus précis, beaucoup plus clair dans son exposé. Voilà le genre de choses. Et puis, d'autre part, les enfants savent très bien expliquer ce qu'est une migration. Je me souviens, l'année d'avant, dans l'exposition, une série de cartes géosensibles. C'est une collègue qui avait utilisé ce procédé, à mi-chemin entre psychologie, géographie, histoire... sur ces cartes géosensibles, les élèves qui étaient mal à l'aise avec le français recouraient au dessin, jouaient sur les distances, jouaient sur la taille des objets, par exemple un avion ou un bateau, et expliquaient ce qu'était leur parcours. Et du coup, tout le monde comprenait que les migrations ont toujours fait partie de l'histoire de l'humanité. C'est pas du tout un accident épouvantable du 21e siècle, c'est pas du tout une catastrophe dont il faut se protéger, c'est au cœur de la vie de l'humanité. Sans les migrations, il n'y aurait pas eu d'histoire, il n'y aurait pas eu de civilisation, l'Europe ne se serait jamais formée. Et ça, les élèves l'expliquent aux adultes le jour de la restitution.
Et le ressentent de façon très, très intérieure. Alors, cette prochaine année scolaire, il y aura 3 collèges et 4 et un lycée, c'est ça?
C'est ça,
qui travailleront à nouveau avec leurs élèves et leurs professeurs sur l'exil, les réfugiés, par le biais de l'oralité, en tout cas avec le médium oral et parfois le slam. C'est quoi, quels collèges participent du coup? Europa?
Alors, la Drôme représentera la moitié des effectifs à elle toute seule. Le collège Europa, qui est représenté ici par Catherine. Et puis, nous aurons le collège Debussy de Romans qui va travailler en tandem avec... Et puis nous avons le lycée professionnel Auguste Aymar d'Espaly-Saint-Marcel, c'est une toute petite commune qui touche le Puy-en-Velay. Et jusqu'au dernier moment, on se demandait s'ils allaient empiler pour la quatrième fois le collège Aimé Césaire de Vénissieux, mais dont évidemment les élèves changent chaque année, mais qui devient un peu le pôle d'excellence et de référence dans la conduite de ce projet. Et je crois, mais Catherine, vous allez pouvoir le dire, vous-même contacter certains de vos collègues qui ont de l'expérience dans cette affaire, ça peut être précieux.
Oui, certainement. Oui.
Je crois que vous les avez rencontrés Izieux.
À Izieux, oui, on a déjà bien discuté avec certains collègues à Izieux.
Et vous avez des attentes communes ?
Eh bien, moi, je le fais vraiment pour les élèves, principalement. Et je trouve que pour eux, c'est une occasion extraordinaire de pouvoir mieux s'intégrer et de pouvoir s'intégrer dans une continuité aussi. Comprendre ce que disait Bernard, qu'ils ne sont pas les seuls et que... Et mon idée, notamment avec la correspondance avec la classe de 4e, c'est que mes élèves prennent l'initiative de se présenter et qu'ensuite, on demande aux élèves de la classe ordinaire, aux élèves français, d'expliquer aussi leur parcours dans leur famille. Comme ça, que les élèves...
Qu'il y ait un parallèle.
Voilà, que mes élèves ne ressentent pas d'être montrés du doigt ou... Comme des bêtes curieuses, ah, vous venez d'où, vous venez pourquoi ? Mais que chacun dise, ben moi dans ma famille, voilà, on a aussi voyagé, on est originaire de telle région. Et qu'il y a vraiment un échange sur un pied d'égalité, quoi.
Susciter des rencontres, entretenir la mémoire et ne pas oublier les violences extrêmes subies par les exilés au long de l'histoire. Retrouvez toutes les productions des collégiens participant au projet Réfugiés hier et aujourd'hui sur le site très très bien documenté enfance au pluriel -réfugiés.org. Mais les infos seront sur le site de la radio. Catherine Coulot et Bernard Delpalle, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt.